Chapitre 5. Il n'y a personne ici, annonce Ethan. Il appuie sur l'interrupteur à l'intérieur de la dernière pièce, illuminant l'espace. Beaucoup plus grande que les autres, il semble effectivement que ce soit la chambre à coucher principale. Il y a un lit king size au centre, fait avec soin, avec une tête de lit en bois ouvragé. Je tends le doigt pour toucher le couvre-lit crème à la bordure rouge. Il est lui aussi recouvert d'une épaisse couche de poussière. Personne, répète Ethan, ayant ouvert la porte de la salle de bain pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Même pas caché dans la salle de bain. Je vois ça. Il tripote le manche du couteau. Alors, tu es satisfaite? Ou tu veux que je vérifie sous le lit? Je n'ai pas besoin qu'il regarde sous le lit. En revanche, ce ne serait pas une mauvaise idée de vérifier dans le dressing. Je saisis la poignée dorée brillante d'une porte située près de la salle de bain et l'ouvre d'un coup sec. Comme je m'en doutais, il s'agit bien d'un dressing. Encore un luxe que nous n'avons pas dans notre appartement de Manhattan. Des rangées de vêtements apparemment coûteux sont alignées dans l'immense rangement. Je vois des étiquettes Gucci, Louis Vuitton et Versace, dont se dégage juste un soupçon de parfum sucré, enfermé dans le placard comme dans une tombe. Chanel, je pense. Je passe mes doigts sur un pull blanc suspendu là, du cachemire. Voilà plus que tout la preuve que le docteur Adrienne Hale est morte. Aucune femme ne partirait volontairement d'ici sans emporter ce magnifique pull. Satisfaite, Tricia ? Je retire mes doigts du pull en cachemire. Je ne comprends pas. Pourquoi la lumière était-elle allumée ? Peut-être une ampoule qui a grillé ? Je secoue la tête. Ce n'est pas possible. On a allumé tous les plafonniers et ils fonctionnent parfaitement. C'était peut-être une lampe. Je lui lance un regard noir. Ethan lève les mains en l'air. Je ne sais pas ce que tu veux que je te dise. On a vérifié chaque pièce, on a regardé dans le placard. Il n'y a personne ici, répète-t-il, plus insistant. Je ne peux pas le contredire. Il a raison. Nous avons vérifié chaque pièce, aussi attentivement que possible. S'il y a quelqu'un ici, la personne ne veut pas être trouvée. Peut-être du coup vaut-il mieux que nous ne la trouvions pas. Très bien, je conclus. Allons manger quelque chose. N'empêche, si nous dormons dans l'une des chambres ce soir, je ferme la porte à clé, c'est sûr, et je la barricade. Alors que nous redescendons l'escalier incurvé vers le rez-de-chaussée, je constate que je ne me sens pas beaucoup mieux maintenant. Pire, je suis encore plus anxieuse. Je suis certaine d'avoir vu la lumière allumée quand nous étions dehors. Et le fait qu'aucune de ces lumières ne soit encore allumée est profondément déstabilisant. Je ne sais pas pourquoi Ethan ne semble pas plus contrarié. Ou peut-être qu'il le cache bien. Une fois en bas, je remarque une pièce sur le côté dont la porte est entr'ouverte, juste à côté de la cage d'escalier. Je pousse la porte pour l'ouvrir complètement et ne peux retenir un petit cri. Ethan se fige.
« Qu'est-ce qui va pas ?»
demande-t-il. Je risque un œil à l'intérieur de cette nouvelle pièce. Comme beaucoup de ses semblables ici, elle est immense. Et comme dans le salon, les murs sont tapissés de bibliothèques, toutes remplies de livres. Je crois que je n'en ai jamais vu autant de ma vie. Près de la fenêtre, dans le coin, se trouve un grand bureau en acajou, avec une chaise en cuir derrière et un ordinateur poussiéreux posé dessus. Le dernier meuble de la pièce est un grand canapé en cuir. Apparemment, le docteur Adrienne Hale aimait beaucoup les meubles en cuir. Ce devait être son bureau. Je souffle. Ethan regarde autour de lui, l'air appréciateur.
Quand on vivra ici, je pourrais faire de cette pièce mon bureau.
Oui. Je ne veux pas briser sa bulle en lui assénant qu'à l'heure actuelle, il est hors de question que j'envisage de vivre dans cette maison. Ne serait-ce que parce que l'idée d'un inconnu tapis dans un recoin sombre de la maison me terrifierait à jamais.
Je n'aurais presque rien à changer,
poursuit-il, une main appuyée sur le canapé pour tester sa solidité.
Enfin, je me débarrasserai de tous les livres. Mais à part ça, c'est parfait.
Ouais, parfait. Il faudra me passer sur le corps. Ethan se penche pour me déposer un baiser sur la joue.
Je vais finir de préparer nos sandwichs. Passe en revue sa bibliothèque, toi.
Avant que j'aie le temps de protester, Ethan repart vers la cuisine. Je veux le suivre, mais mes jambes sont pétrifiées. Ce bureau. Plus encore que le reste de la maison, il me fait froid dans le dos. C'est là qu'elle travaillait. Elle était très certainement dans cette pièce le jour de sa disparition. Comme la chambre principale, mais en pire, cette pièce semble hantée par sa présence. Je me dirige vers le bureau en acajou. C'est poussiéreux ici aussi, mais pas autant qu'au salon. Il n'y a qu'une fine couche de poussière sur le bureau et le clavier de l'ordinateur. Je tire un mouchoir en papier de la boîte qu'elle a sur le bureau et je le passe sur l'écran noir. Puis, je dépoussière le fauteuil en cuir avant de m'y installer. Il émet un grincement inquiétant sous mon poids. Est-ce ici que le docteur Hale a écrit « L'anatomie de la peur » ? Pendant un temps, on aurait dit que tout le monde dans le pays avait lu ce livre. C'était LE livre à la mode. Elle n'a jamais pu en profiter, car peu après sa sortie, elle s'est volatilisée. J'étudie le contenu du bureau. Elle a un porte-crayon en forme de cerveau humain, rempli de stylos à billes. Son ordinateur est équipé d'un de ses claviers ergonomiques, incurvés, qui permet de positionner ses mains de manière plus naturelle. Et il y a un autre objet sur le bureau qui attire mon attention. C'est un magnétophone. Je n'en ai plus vu depuis de nombreuses années. Je me souviens vaguement que mes parents en possédaient un quand j'étais petite, mais c'est tout. C'est un objet obsolète. Je souffle la poussière et le saisis, curieuse d'entendre ce que le docteur Hale écoutait avant sa disparition. Mais il est vide. Bien sûr, la police a dû prendre la cassette qui se trouvait à l'intérieur comme pièce à conviction.
« Tricia, les sandwichs sont prêts !»
La voix d'Ethan me parvient via le couloir. Je repose le magnétophone sur le bureau et quitte la pièce pour le rejoindre.